Sobeuse.com. Rencontre par Marc Zisman.
Vous êtes en mission, c'est le titre de votre nouvel album. Alors c'est une mission pour faire connaître, plus que même pour faire redécouvrir, puisque certains, ce nom était totalement inconnu, Agostino Stefani, ce compositeur qui est au cœur de votre nouvel album. Alors comme souvent vos albums désormais, vous dites que vous aimez construire vos disques comme on raconte des histoires. Mais c'est quoi le point de départ à chaque fois? Est-ce que c'est, j'imagine, la musique? Mais est-ce que vous pensez à la narration? Est-ce que vous pensez à comment l'histoire peut être filtrée par votre voix?
Alors je pense que le point de départ, c'est la musique. Sûrement c'est la musique, et qu'est-ce que cette musique justement nous transmet? C'est les émotions du moment qu'on écoute la musique de Stefani, c'est ça, je pense ça, c'est la force de la musique de Stefani. Et bien sûr on a une histoire aussi très intéressante à raconter.
Avec un personnage incroyable.
Voilà, personnage incroyable, prêtre, missionnaire, diplomate, compositeur, enfin c'est une vie pleine de mystères, mais la musique est pleine d'émotions, alors c'est ça que nous, êtres humains, on a besoin d'être émotionnés, d'être touchés. Et voilà la force de Stefani, sa musique transcendantale.
Qu'est-ce qui justement vous pousse à aller vers ce genre de projet, même en général? C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que c'est le meilleur écrin pour votre voix? Est-ce que c'est lié à l'époque? C'est aussi une manière, vous préférez faire ce genre d'album plutôt que d'enregistrer la 6780e version de tel ou tel opéra?
Non, parce que je crois, bien sûr, j'adore chanter la musique entre guillemets populaire de les grands génies du 18e, 19e, alors de Handel, de Vivaldi, mais là de découvrir quand même qu'il y a une sorte de grand-père de Handel. Ah, ça c'est fascinant, de voir un peu les racines de Handel grâce à la musique de Stefani, parce que ce prêtre a vécu une bonne partie de sa vie en Allemagne. En prêtre catholique dans une Allemagne protestante. Là, c'est le mystère.
J'imagine qu'il y a aussi le petit plus, peut-être, c'est quand en plus il y a des créations sur des morceaux, des pièces qui n'avaient jamais été enregistrées. Quand justement on attrape, avec votre voix, vous attrapez ces partitions qui n'ont été enregistrées par personne d'autre auparavant, c'est aussi une petite excitation. J'imagine que même quand vous chantez des airs qui ont été enregistrés par d'autres cantatrices par le passé, vous ne les réécoutez pas tout le temps avant. Mais là, justement, d'attraper un matériel musical totalement presque vierge, c'est aussi un petit plus une excitation de...
Bien sûr, il y a un côté d'excitation, la découverte et tout ça. Mais après, ceci, il y a une grande responsabilité, parce que dans ce cas-là, on vient, quand on parle d'un disque de quoi? De 80 minutes. On a 80 minutes pour expliquer qu'il y a un génie oublié. C'est pas évident, en 80 minutes. Alors justement... Ça, j'aurai aussi la possibilité de faire cette musique de Stefani en concert. Et là, on aura, on fait vraiment un voyage entre la musique instrumentale et la musique vocale de Stefani.
Qu'avez-vous appris sur votre voix que vous ne saviez pas en chantant justement Stefani?
En chantant Stefani, j'avais finalement sa musique, quand je disais avant, c'est une musique transcendantale. C'est-à-dire, il est capable de transmettre, il y a une sorte de... quand on dit d'émotion entre la terre, le ciel, mais le cosme, c'est les planètes, voilà, c'est en contact. Sans nécessairement parler de musique sacrée, parce que moi, ce que je viens d'enregistrer, ce sont des airs d'opéra. Mais là, justement, il y a un côté spirituel, mais avec le cosme. Alors, de parler avec les planètes, c'est quand même... C'est une expérience que j'avais jamais prouvée avant. Enfin.
Qu'est-ce qui vous fascine dans le pré-baroque, dans cette période ?
Et le pré-baroque, ce qui est fascinant, c'est la transition. Justement, on est encore en parfum dans la musique de Stéphanie, le parfum Renaissance. On peut dire il y a deux airs qui sont vraiment comme on peut dire du Monteverdi, du Cavalli, mais en même temps. Alors, des airs déjà avec une structure pré-baroque, quand je dis ça, avec typiquement la structure de 1, B, et puis le da capo, des airs de virtuosité quand même incroyable, avec la trompette, on fait du duo, enfin. Mais là aussi, c'est la douceur, c'est cette période, il faisait des expériments aussi avec les harmonies. La structure, la forme, ça c'est passionnant. En passant par lui aussi, parce qu'il a quand même rencontré lui, Stéphanie. Alors on entend aussi une sorte de couleur, voilà, français, les danses, les rythmes, ça c'est fascinant.
Ça c'est vos disques, mais les disques en général justement, mais pas les vôtres, ceux des autres. Comment, quel rapport vous avez entretenu avec le disque dans votre éducation musicale, même quand vous étiez petite fille? Est-ce que vous achetiez beaucoup de disques, vous en écoutiez beaucoup? Comment ils vous ont suivi tout au long de votre vie, les disques des autres? Est-ce que vous avez eu des phases où vous étiez...
Ah oui, non, mais moi, quand j'étais petite à la maison, mes parents, enfin, sont tous les deux chanteurs.
Chanteurs, bien sûr.
Et là, je me souviens des disques en vinyle, le ténor, mon père, il était ténor. Et alors, les ténors du passé, de Caruso, au Schipa, Tito Schipa, Pertile, enfin, non, c'était... Là, je suis grandie avec... Les grands ténors, surtout les ténors,
surtout
c'est
les
vrai.
Ténors.
Et puis l'opéra, bien sûr, parce que mes parents chantaient dans le chœur de l'opéra de Rome. Ils ont fait une carrière de soliste, mais après, avec les enfants, bref, ils ont décidé de rentrer dans un chœur. Et là, j'ai grandi à l'opéra, mais c'est plutôt avec l'opéra, le vérisme italien.
Oui. Vous aviez des disques de chevet quand vous étiez petite, que vous remettiez des vinyles que vous avez usés,
oui,
certains plus que d'autres.
Oui, mais après j'avais des disques quand même,
des CD,
plus tard, j'entendais aussi la musique pop de l'époque. Alors il y avait une chanteuse, mon frère, il était amoureux de Rita Pavone, je ne sais pas si vous l'avez jamais entendue. Alors là, je me souviens, là, c'était sympathique, mais après, bien sûr, le Beatles et tout le reste qui... Enfin,
vous
Michael
êtes...
Jackson et...
Thank you.
Quel mélomane vous êtes aujourd'hui quand il vous reste un peu de temps dans votre emploi du temps en flou? Est-ce que quand vous êtes dans un avion, vous mettez un casque sur la tête, vous écoutez de la musique, ou vous avez plutôt tendance à essayer d'écouter du silence de temps en temps? Ou est-ce que chez vous, il y a de la musique tout le temps, en permanence? Comment vous...
Quel mélomane vous êtes? Non, là, finalement, je prends plutôt le train et le bateau. Alors, je sais pas...
Et... Vous écoutez de la musique quand vous êtes dans le train ou pas trop?
Alors, le train, pas forcément, pas de musique... le bateau, pas forcément de musique. Non, je... non, c'est-à-dire que je... Et on a besoin de concentration, je crois, pour entendre la musique. Alors, et ça dépend le genre de musique, mais la musique qui fait, comment dire en italien, sottofondo, on dit la musique... j'aime pas finalement. Voilà, j'aime pas.
Pensez que dans la société actuellement, il y a trop de musique tout le temps. On rentre dans un restaurant, il y a toujours un fond sonore.
Voilà, et on n'a pas vraiment le temps d'apprécier finalement la musique. On est.
Overdose.
Une sorte d'overdose, oui. Alors on entend la musique tout le temps, mais finalement on n'entend pas
vraiment la musique. Vous avez travaillé avec un nombre de chefs d'orchestre assez incroyable. Alors on ne va pas tous les passer en revue. Je vais vous en citer comme ça 4 et j'aimerais que vous me disiez un. Ce que vous gardez de chacun de ces maestros, Karajan,
je rencontrais Karajan quand j'étais très très jeune et là, je me souviens l'audition que j'avais fait avec lui, c'était une audition à Salzbourg dans le Großes Festspielhaus et à l'époque lui il était déjà assez enfin il était malade, il était sans énergie, sans force, finalement, vous voyez, physiquement, hein, c'était pas facile, mais le rencontre, enfin, un homme tout petit, mais avec une force intérieure, un regard, et je travaillais avec lui parce qu'il m'avait engagé pour faire la messe en si mineur de Bach, et puis après, finalement, on n'a pas eu vraiment la possibilité de la faire sur scène, mais j'ai travaillé avec lui, et... Karajan, c'est une force, c'est là. Voilà, c'est difficile à expliquer avec des paroles, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a bouleversée.
Armoncourt, qu'est-ce que vous gardez du travail avec Armoncourt?
Armoncourt, le travail avec Armoncourt, c'est finalement le voyage vers la musique baroque, parce que c'était grâce à lui que j'ai commencé à chanter avec des instruments d'époque. Et des orchestres, enfin, qui jouaient des instruments d'époque. Alors, le voyage vers le Mozart avec ce moment d'époque, la musique de Haydn aussi, et Handel avec les instruments d'époque. Alors, j'ai appris beaucoup par rapport au style, justement, entre le bel canto que moi je chantais, Rossini, Bellini, et puis voilà, et puis. Tout le monde des affetti baroque, oui.
Et Daniel Barenboim, qu'est-ce que vous gardez à l'esprit de...
Daniel Barenboim, c'est... Oui, avec lui, je dois le remercier parce que c'était lui qui m'a ouvert vraiment l'univers mozartien. Parce que après Karajan, c'était... Ou après, c'était justement, c'était plus ou moins à la même période parce que j'avais fait une transmission à la télévision. C'était Eve Ruggieri qui préparait un grand gala à l'Opéra de Paris, et c'était l'hommage à Maria Callas. Et c'est là, dans cette occasion, j'étais invitée pour chanter une aire de Rossini. Et à l'époque, c'était transmis à la télévision, un teint 2. Et là, c'était Barenboim qui m'a vue en direct, et il m'a demandé d'auditionner pour lui le jour après le concert. Et là, il m'a dit, Cécilia, c'est important pour vous d'apprendre le rôle mozartien, parce qu'à l'époque, je chantais surtout Rossini. Et c'est lui, justement, avec les Zerlina, Dorabella, Cherubino. Et surtout, il m'a dit, Cecilia, c'est bien le don, c'est important, bien sûr, la voix, mais le travail, le travail. Et c'est vrai, le travail, c'est la discipline. Quand comme un instrumentaliste, finalement. Mmh. Il faut penser à la voix comme un autre instrument.
Quand on est au sommet, comme vous, aujourd'hui, à tous les niveaux, c'est-à-dire en termes de notoriété, en termes de vente de disques, en termes même de critiques, enfin, c'est que tout le monde reconnaît effectivement votre talent. Est-ce qu'on ne se met pas, il n'y a pas une sorte de pression finalement qu'on se met à soi-même, parce que qu'est-ce qui vous booste, quelle est le carburant qui vous pousse chaque jour justement à vous lancer dans ces projets, à continuer à chanter? Alors j'imagine c'est de rester qui vous êtes, et l'excitation sans doute de découvrir des répertoires comme ça, mais c'est quoi un peu le secret pour réussir justement comme ça?
Le secret, c'est d'avoir toujours la passion, l'amour, l'énergie pour c'est ma passion, la musique. C'est pas seulement
vous avez
chanter,
des doutes
mais
parfois,
douter.
Des doutes
ah ben oui, de tout le temps, parce que finalement, quand on doit servir, parce que c'est ça ce qu'on fait, on doit servir la musique de grands compositeurs. Alors on se pose toujours des questions, mais c'est ça ce qui est dans la partition. Mais après, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière, dans le pentagramme, entre les notes, justement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est quoi le message? Et là, on se pose toujours des questions, mais il faut se poser des questions, justement. Et là, il faut servir la musique d'un compositeur. Alors c'est excitant, mais en même temps, il y a beaucoup de responsabilités. Et tout là, et tout cela, il faut le partager, en plus. Parce que c'est ça ce qu'on fait quand on est sur scène, on partage les émotions. Et c'est vrai, c'est pas évident, mais ça me plaît beaucoup, encore.
Vous êtes votre juge le plus sévère?
Oui.
C'est facile ou il y a des...
C'est jamais facile, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile, c'est jamais facile, mais c'est pas facile, mais c'est fascinant.
Quand vous avez commencé à chanter, à quel moment vous avez réalisé que vous aviez quelque chose à dire ? Au-delà du don que vous avez eu de cette voix complètement incroyable, en chantant et à chanter, mais il y a un moment où on grandit vocalement,
oui.
Et il y a un moment où on réalise qu'on a d'être soi-même, c'est quelque chose qui a mis du temps, vous avez facilement trouvé, comment ça s'est...
Mais c'est ce qui, finalement, on ne sait pas, on ne peut pas réaliser si on a des choses à dire, ça c'est ça, c'est pas à nous de le dire, justement, ce sont les gens qui doivent ressentir finalement ça, alors il faut poser la question à les gens qui viennent en concert plutôt, mais c'est vrai que je pense que c'est nécessaire de se plonger dans le caractère. On raconte des histoires, justement, quand on chante, à travers la musique, à travers les paroles, mais on raconte des histoires. Et c'est là, et chaque fois, ce sont des histoires différentes, et c'est ça, alors, justement. Et on apprend chaque fois, non. Et c'est pour ça, de se plonger dans un caractère, je pense que ça, c'est très important.
Dans les différentes étapes de votre vie musicale, la confrontation de votre voix aux instruments anciens, ça a été vous avez entendu votre voix différemment. Qu'est-ce que ça a apporté à votre perception de votre propre voix?
Oui, je pense que quand je chante avec des instruments d'époque anciens, mais en général, je crois que qu'on doit quand même... la voix, c'est un instrument, comme je disais avant, qui doit dialoguer avec les autres instruments. Alors, c'est le dialogue. Et je trouve que... avec les instruments d'époque, c'est vrai qu'on arrive à faire du dialogue. C'est finalement, quand on pense à les cordes, à les violons, cordes qui jouent avec des cordes justement de boyaux, on se dit, c'est exactement, c'est naturel, c'est ça. C'est ça la voix aussi, non? On retrouve une sorte d'osmose qui c'est... qu'avec des instruments modernes, quand on a des violons qui jouent avec des cordes de métal, c'est pas évident. Il y a peut-être moins de souplesse, ça demande plus brillant, mais c'est un travail différent.
Il y a ces pièces qui sont assez magiques sur l'album où vous êtes seul avec juste le luth, il y a votre
voix et le luth, c'est... Rien de plus beau, voilà.
C'est pas d'artifice, rien de...
C'est la calme, c'est l'intériorité, c'est la souplesse, c'est l'amour, c'est la sensualité. C'est ça aussi, dans une heure comme celle-là de Amami, dans la Niobe de Stéphanie, c'est un moment magique, on s'est dit, c'est tout simple, mais tellement touchante et tellement sensuelle, qu'on s'est dit, on est dans une autre planète tout de suite.
La voix, c'est le seul instrument en plus qui est comme vous, c'est-à-dire que quand vous réveillez le matin et que vous avez mal à la tête, votre voix elle a mal à la tête, si vous êtes...
C'est vrai.
Comment on gère justement ce rapport si physique, si intérieur par rapport à tous les autres instruments qui évolue avec vous, c'est-à-dire qui grandit avec vous, qui vieillit avec vous, qui suit tous vos tourments, etc. C'est plus compliqué, vous pensez, que les autres instrumentistes ?
C'est plus compliqué parce que... Mais en même temps, c'est plus mystérieux. C'est ça, ce qu'on dit, que la voix, c'est l'instrument le plus proche de l'âme. Et c'est vrai. Mais c'est à cause de ça, ou grâce à ça, qu'on est toujours bouleversé par une voix. Et bien sûr, on est très bouleversé par un instrumentaliste qui chante avec l'instrument. Et c'est ça, mais c'est vrai que c'est plus fragile par rapport à un piano, ça c'est sûr.
Le fait que les opéras contemporains soient si rares ou si peu médiatisés, est-ce que vous pensez que c'est un frein d'une certaine manière au développement de l'opéra, de l'art lyrique ? Est-ce que c'est un problème ou pas, finalement, que l'opéra soit majoritairement, on chante des œuvres ? Alors même si là, évidemment, vous sortez de l'oubli des œuvres totalement inconnues,
oui.
Est-ce que c'est un problème, vous pensez, que finalement il n'y ait pas autant d'opéras que ça, contemporains ?
Je crois que c'est... Oui, c'est dommage finalement. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de compositeurs qui écrivent pour les voix d'aujourd'hui. Et là, la question, c'est vrai, on se pose toujours de questions, pourquoi la musique est plus tonale, on écrit de la musique atonale, et pour les chanteurs, c'est pas évident de chanter de la musique atonale. Enfin, c'est pas facile, mais c'est vrai que ce sera quand même pas mal d'avoir des œuvres pour les chanteurs d'aujourd'hui. Ce sera une bonne idée de demander au compositeur de commencer, voilà, à écrire pour les voix d'aujourd'hui.
Vous êtes directrice artistique aussi du festival de Pentecôte de Salzbourg. C'est une casquette récente. Qu'est-ce qui vous excite dans cette casquette de programmatrice?
Ben ça c'est magnifique. Ça c'est justement c'est ma passion de créer des projets, mais surtout voilà d'avoir cette position après les grands chefs d'orchestre et après des hommes. C'est la première fois qu'une femme a cette position. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai décidé aussi de concentrer pendant le festival cette année sur le thème de Cléopâtre. Cléopâtre du baroque jusqu'à la musique contemporaine. Voilà, on parlait de la musique contemporaine j'avais demandé au compositeur Odion Chedrin d'écrire une cantate Cléopâtre sans serpent. Alors on a commencé avec le Jules César. D'Handel, que bizarrement n'était jamais représenté à Salzbourg, avec un cast magnifique, Philippe Jaruski, André Scholl, Anne-Sophie Fonotter, Il Giardino Armonico, enfin, c'est très excitant. Alors finalement, j'aime beaucoup cette position, et on a doublé les ventes du festival. Alors ça veut dire que s'il y a un thème, et c'est vrai que le public aime ça, justement, suivre un thème, s'il y a la possibilité.
Bon, alors avant la prochaine édition du festival, on conseillera donc aux gens d'écouter Mission. Merci, Cécile Labarthe.
Merci. Thank you.
www.cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.